à Paris, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Marion Kazanov.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Le décompte des voix se poursuit aux États-Unis. Trois jours après les élections de mi-mandat, le partage du pouvoir au Congrès reste incertain alors que Joe Biden, le président, s'apprête à prendre la parole à la COP27 en Égypte. Discours très attendu puisque les États-Unis sont l'un des plus gros pollueurs de la planète alors que le démocrate a lancé il y a quelques mois un plan massif contre le réchauffement climatique. Dans ce contexte de COP27, on ira en Haïti où l'on cherche des solutions pour éviter les inondations. De jeunes agronomes propose de reboiser une colline, le morne de Biénac, pour qu'elle retienne mieux l'eau de pluie.
Dans les périodes de pluie intense, il y a toujours de l'eau qui sort de la montagne pour se déverser dans les rues et même causer des inondations. La montagne n'a pas de couverture végétale pour faciliter l'infiltration des eaux dans le sol. Ce sont ces deux problèmes qui sont à la base de cet état critique du morne, comme vous êtes en train de le regarder. Il est dévasté, dénudé.
Un reportage aux Gonaïves à venir. On rencontrera aussi un collectif d'hommes chiliens qui se retrouvent pour tricoter, une initiative pour combattre les stéréotypes de genre dans un pays encore très conservateur sur ces questions-là.
Il y a encore beaucoup d'hommes au Chili qui n'osent pas tricoter en public, car certaines personnes pensent qu'un homme qui tricote, c'est un PD, c'est un homosexuel, que le tricot, c'est pour les femmes, pas pour les hommes.
Et puis à la une du journal de l'Outre-mer, Benoît Ferrand, la fin des vols d'Air Belgium vers les Antilles.
Et oui, les liaisons Charleroi-Pointe-à-Pitre et Charleroi-Fort-de-France vont s'arrêter en mars prochain, nous dira tout à l'heure Peggy Robert de la Première Guadeloupe.
On vous retrouve dans une quinzaine de minutes, Benoît.
Les négociations entre le régime et l'opposition doivent reprendre dans les meilleurs délais à Mexico, avec dans un premier temps un accord humanitaire et ensuite, je l'espère, des garanties politiques des prochaines éditions.
Les mots, vous entendez Emmanuel Macron, le président français, qui parle de sa volonté à relancer le dialogue politique vénézuélien. Il vient de s'exprimer à l'occasion du Forum de Paris sur la paix. Il recevra en fin d'après-midi ses homologues argentins et colombiens sur le sujet. Le Venezuela est dans une impasse politique. Le dialogue est au point mort entre le camp du président Maduro et de ses opposants. On suivra les avancées de ce Forum de Paris dans nos prochaines éditions. Aux États-Unis, les bulletins toujours en train d'être comptabilisé. Bonjour Achim Lippold.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Pour la revue de presse des Amériques, on attend donc encore les résultats définitifs des élections de mi-mandat.
Oui, exactement. Alors que les républicains sont toujours pressentis pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants, la course pour le Sénat reste encore ouverte. La composition finale de la Chambre haute est suspendue à 3 sièges. Le dépouillement se poursuit effectivement, comme vous l'avez dit, en Arizona et au Nevada, alors qu'en Géorgie, un second tour est prévu le 6 décembre prochain. Pardon. En tout cas, selon le Washington Post, tous les yeux sont tournés vers ces 3 États. Les démocrates ont besoin de remporter au moins 2 des 3 sièges pour conserver leur courte majorité au Sénat, précise le Washington Post. Les résultats de l'Arizona et du Nevada devraient être connus ce week-end, selon le journal.
Et en attendant, l'ancien président Donald Trump est de plus en plus critiqué par certains médias conservateurs.
S'il n'y a pas eu de vague républicaine aux élections de mi-mandat, c'est la faute de Donald Trump, estiment les journaux du puissant groupe de médias de la famille Murdoch, à commencer par le Wall Street Journal, le quotidien économique. Dans son éditorial, qualifie l'ex-président de plus grand perdant du parti républicain. Et le Wall Street Journal d'ajouter, depuis sa victoire de 2016 contre la candidate démocrate Hillary Clinton, il a enchaîné les défaites électorales. Donald Trump, poursuit le quotidien, a entraîné les républicains de fiasco en fiasco. Plusieurs des candidats qu'il a appuyés lors de cette élection ont échoué dans les urnes, dans les États qui étaient clairement gagnables, comme par exemple la Pennsylvanie ou le New Hampshire.
Mais Arim, ce n'est pas la première fois que Donald Trump est étrillé par la presse de Murdoch.
Oui, absolument. Certains journaux, comme le New York Post, par exemple, avaient déjà pris leur distance avec le milliardaire républicain. Mais ces jours-ci, leurs critiques deviennent de plus en plus dures. Il est temps pour Trump d'abandonner la politique, écrit par exemple un éditorialiste du New York Post. Pour étayer ses propos, le tabloïd new-yorkais n'hésite pas à donner la parole aux républicains, aux responsables républicains qui souhaitent souhaitent également que leur parti lâche Donald Trump. Il est devenu un fardeau pour nous, a déclaré par exemple l'ancien chef de la Chambre des représentants, Paul Ryan, cité par le New York Post.
Et il y en a un qui profite de ces tirades contre l'ex-président, c'est le gouverneur fraîchement réélu de Floride, Ron DeSantis.
Oui, exactement. Sa victoire écrasante fait de lui un candidat crédible pour la présidentielle de 2024, titre le Miami Herald. Selon le journal, Ron DeSantis veut faire de la Floride un laboratoire conservateur, un modèle qu'il pourrait ensuite présenter lors de la campagne présidentielle dans 2 ans. Un journaliste conservateur, Ben Shapiro, commence également à miser sur le cheval DeSantis, rapporte le Miami Herald, sans nommer expressément l'ancien président Donald Trump. Le commentateur radio estime pour gagner des élections, le parti républicain doit arrêter avec des comportements enfantins et se montre plus sérieux, plus discipliné.
De son côté, le président américain Joe Biden prendra la parole à Sharm el-Sheikh en Égypte aujourd'hui à la tribune de la COP27, la conférence de l'ONU pour le climat. Discours très attendu puisque les États-Unis restent le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre après la Chine. Joe Biden conforté donc après les élections de mi-mandat puisque la vague rouge républicaine attendue elle n'a en fait pas déferlé sur le Congrès, ce qui pourrait permettre au président de poursuivre ses ambitions climatiques. Jeanne Richard, il avait promis de faire de la lutte contre le changement climatique une priorité.
En août dernier, le Congrès américain, à majorité démocrate, adoptait un plan de 370 milliards de dollars pour le climat, le plus grand investissement jamais vu aux États-Unis en la matière. Mais même si les républicains remportent ces élections de mi-mandat, sur le plan intérieur, cela n'inquiète pas Frances Cullen, ancienne conseillère scientifique et environnementale sous l'administration Obama et actuellement membre d'un think tank démocrate.
Parmi les nouveaux élus, il y a de grands défenseurs du climat et même si les républicains gagnent au final, ils ne pourront pas revenir sur la loi climat. Ils pourront simplement ralentir et contrarier l'administration Biden sur certains points.
Sur le plan international, par contre, une victoire des républicains serait plus problématique selon elle. Joe Biden avait promis plus de 11 milliards de dollars d'aide aux pays en développement pour lutter contre le changement climatique. Mais pour l'instant, seulement 1 milliard a été validé par le Congrès américain.
C'est très important que les démocrates s'activent ces prochaines semaines. Ils ont jusqu'à décembre, avant l'entrée en fonction du nouveau Congrès, pour mettre l'argent promis sur la table.
À la COP, les défenseurs du climat espèrent donc des annonces lors de la venue de Joe Biden, prévue ce vendredi. Jeanne Richard, Sharm el-Sheikh, RFI.
Et dans ce contexte de COP27 en Haïti, on cherche des solutions pour éviter les inondations, notamment au Gonaïve. La ville haïtienne est entourée de collines que l'on appelle des mornes sur lesquelles ne pousse aucun arbre. Résultat, lorsqu'il pleut, l'eau glisse facilement en contrebas et submerge des quartiers entiers des Gonaïves. Par exemple, la montagne de Biénak, la plus proche de la ville, est touchée par une importante érosion. Son sol ne retient pas les eaux de pluie qui se déversent. Et les cailloux, le sable, la boue qu'elle transporte bouchent les canaux d'évacuation. Alors un groupe de jeunes agronomes a l'intention désormais de reboiser cette montagne. Notre correspondant Ronel Paul les a rencontrés.
Cet après-midi, nous accompagnons sur le terrain pour une visite d'exploration Jimmy Deliska et Will Sentinus, de jeunes agronomes initiateurs de ce projet ambitieux. Après quelques minutes d'escalade, nous arrivons au milieu de la montagne. À cet endroit, nous avons une très belle vue sur la cité de l'Indépendance, mais autour de nous, ce n'est que désolation. La majorité des bassins versants sont à nu, ce qui indigne Jimmy Deliska.
Dans les périodes de pluie intense, il y a toujours de l'eau qui sort de la montagne pour se déverser dans les rues et même causer des inondations parce que les bassins versants ne sont pas aménagés. La montagne n'a pas de couverture végétale pour faciliter l'infiltration des eaux dans le sol. Ce sont ces deux problèmes qui sont à la base de cet état critique du morne, comme vous êtes en train de le regarder. Il est dévasté, dénudé.
Concerné par l'état critique de la montagne, Jimmy Deliska et ses camarades avaient lancé un SOS en mars dernier. Ils avaient commencé par une sensibilisation sur les réseaux sociaux en publiant des photos qu'ils avaient prises de la montagne munies de pancartes sur lesquelles on pouvait lire à la fois en créole, français, anglais et espagnol « Sauver les mornes Biénak et Gatro ». Actuellement, ils sont en train d'élaborer un projet contenant 2 objectifs principaux, reboiser la montagne et traiter les bassins versants.
D'abord, nous consulterons des géologues. Nous ferons des recherches édaphiques pour déterminer la nature des sols. Il nous faut ensuite déterminer les plantes appropriées à cet espace, les équipements nécessaires dont nous aurons besoin pour aménager les bassins versants. Enfin, nous réfléchirons à un plan d'arrosage.
Avec beaucoup de consternation, les agronomes observent les bassins versants et réfléchissent sur la manière la plus efficace de les traiter. Se basant sur des connaissances empiriques, Wius Saint-Illus a déjà une idée.
Il y a plusieurs façons de traiter des versants. On peut utiliser des seuils de pierre sèches pour retenir l'eau et la terre qui se déverseront. C'est une technique très intéressante qu'on utilise souvent en Haïti. Mais il y a des endroits où on peut également utiliser des courbes de niveau pour éviter que les alluvions ne se déversent. Tout ça est inclus dans notre projet. Après une observation pour étudier les bassins cas par cas, pour mieux agir en ce sens.
Derrière ce projet de reboisement se cache une vision encore plus audacieuse. Transformer la montagne de Bienac en un véritable parc d'attractions écologiques. Pour y parvenir, les jeunes sollicitent la participation de tous les Haïtiens, y compris la communauté internationale. Car pour Jimmy Delisca, un projet environnemental est l'affaire de toute la planète.
Parler de l'environnement aujourd'hui, parler de protection de l'environnement, parler de changement climatique, c'est l'affaire de tout le monde. Je pense que ce projet concerne le monde. Au niveau de la ville, si nous trouvons des spécialistes, tant mieux. À l'échelle internationale, s'il y a des institutions ou des instances qui souhaitent apporter leur contribution, notre équipe les attend pour pouvoir matérialiser ce projet.
Avec impatience, les habitants de la zone attendent la matérialisation de ce projet. Sous l'effet de l'urbanisation non contrôlée, la montagne est surpeuplée de petites maisons en tôle. Le jour, sous l'effet du soleil, elles sont transformées en de véritables fournaises. Alors que nous poursuivons notre visite, nous rencontrons Schneider Garçon assis au bord du chemin qui passe juste en face de sa maison. Il a hâte que la zone soit reboisée.
On se sentirait vraiment à l'aise parce que dès que le soleil se lève, ce n'est plus supportable car il n'y a aucune ombre, faute d'arbres. Même à l'intérieur de la maison, on ne peut pas y rester parce que la chaleur y est trop forte. Nous sommes vraiment dans la nécessité d'avoir des arbres dans la zone. Regardez ce que vous pouvez faire pour nous.
Seulement voilà, cette perspective ambitieuse n'est pour le moment qu'à l'état de projet car les jeunes écologistes n'ont aucun sou en poche. Ronel Paul Legonaïf, RFI.
Et partons à présent à la rencontre d'un collectif d'hommes qui combat les stéréotypes de genre avec du tricot. Ça se passe au Chili, pays encore conservateur où 3 personnes sur 10 pensent que la masculinité traditionnelle est menacée. Comprenez l'image de l'homme fort, puissant, qui ne pleure jamais. Et bien c'est avec leurs aiguilles et leurs pelotes de laine que ce collectif vient détricoter ces idées reçues. Il organise des ateliers, des conférences ou encore des performances en public. Notre correspondante Naila Derouanet a rencontré ces hommes engagés lors d'un après-midi tricot dans un parc du centre de la capitale, Santiago.
Ils sont une petite dizaine, la majorité des hommes, mais aussi quelques femmes, assis autour d'une table sur laquelle se mélangent pelotes colorées et aiguilles à tricoter.
J'ai commencé à tricoter à 12 ans en regardant des vidéos sur YouTube. Ce qui me détend le plus, c'est de tricoter sans suivre de patron, inventer des motifs sans connaître le résultat final.
Kevin, 21 ans, vient de Coinco, un petit village à 1h30 au sud de Santiago. Il s'est levé à 5h du matin pour faire le trajet et assister à la rencontre. C'est la première fois qu'il voit autant d'hommes tricoter ensemble.
À la campagne, ce n'est pas comme ici en ville, les gens ont encore une vieille mentalité. Bon, maintenant, les gens de mon village sont habitués, ça fait 9 ans que je tricote. Mais au début, c'était compliqué, surtout à l'école, on se moquait de moi. Mais je ne faisais rien de mal, alors j'ai continué sans leur prêter attention.
À côté de Kevin, Fernando, 53 ans, enseignant. Avec ses crochets en main, il prépare une couverture colorée pour sa petite nièce.
On dit que le tricot, c'est le nouveau yoga. Pour moi, une journée sans tricoter, c'est une journée qui n'a pas été vécue. Je tricote tous les jours.
Quand il était enfant, Fernando regardait, fasciné, sa mère et sa grand-mère confectionner des couvertures et des ponchos.
Je souhaitais apprendre, mais elle disait « c'est un travail de femme ». J'ai donc appris la technique en observant ma grand-mère. Et puis en 2010, j'ai connu une fille qui faisait des amigurumi, de petites figurines tricotées. Mais j'avais honte de lui demander. Alors j'ai acheté des revues pour apprendre tout seul.
Fernando a ensuite découvert le collectif des hommes qui font du tricot.
J'aime beaucoup ces rencontres entre nous. On partage nos expériences et surtout on sent qu'on n'est pas seul. Mais il y a encore beaucoup d'hommes au Chili qui n'osent pas tricoter en public. Ils n'en parlent pas, ça leur fait peur. Car certaines personnes pensent qu'un homme qui tricote, c'est un PD, c'est un homosexuel, que le tricot, c'est pour les femmes, pas pour les hommes.
Cette peur d'être jugé, Gonzalo, quant à lui, l'a ressenti plus d'une fois.
Quand j'ai commencé à tricoter, je profitais du trajet en bus ou en métro pour pratiquer. Mais j'étais nerveux car les gens me regardaient, ils avaient l'air surpris.
Avec le temps, son appréhension et sa peur ont disparu, mais une question demeure.
Quand un homme tricote pour avoir un revenu, c'est bien vu. En revanche, quand il le fait comme un passe-temps, la vision change et les gens se demandent pourquoi cet homme aime le tricot. Ils ont une arrière-pensée.
Ce sont justement ces arrière-pensées, ces stéréotypes, que le collectif des hommes qui font du tricot essaye de combattre depuis 6 ans.
La société chilienne est conservatrice, c'est le cas en Amérique latine de manière générale, alors même qu'ici nous sommes très joyeux.
Victor Rojas fait partie du collectif depuis 2019. Il note quand même quelques avancées.
Les mentalités à propos des stéréotypes de genre sont en train d'évoluer. Ce n'est d'ailleurs plus si étrange de voir un homme tricoter dans le métro. Et nous sommes plutôt contents du travail du collectif, de véhiculer l'idée qu'une personne peut faire ce qu'elle veut sans que son genre ne l'en empêche. C'est valable pour tout. Les couleurs, la longueur des cheveux, les bijoux, le maquillage. Je ne sais pas si à l'avenir le rôle du collectif sera très important ou pas, mais en tout cas, si on peut contribuer à faire avancer les choses, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je pense que le pari est gagné.
Et grâce aux réseaux sociaux, le collectif des hommes qui font du tricot se déploie un peu partout dans le monde, en Argentine, au Mexique, en Colombie, au Portugal, aux États-Unis et même au Japon. Naïla de Rouané, Santiago RFI.
Le journal de l'Outre-mer pour finir cette édition à la une. Benoît Ferrand, cette lune de miel entre la compagnie Air Belgium et les Antilles qui va bientôt se terminer.
Eh oui, la compagnie belge, comme son nom l'indique, va interrompre au début du mois de mars prochain ses liaisons entre Charleroi et Pointe-à-Pitre et Charleroi et Fort-de-France. Tout ça va s'arrêter, la faute au tarif du kérosène et aussi, il faut bien le dire, à une trésorerie en mauvais état. Peggy Robert, la première Guadeloupe.
Air Belgium mettra fin à sa desserte vers la Guadeloupe et vers la Martinique après les vacances de carnaval. Les vols se poursuivent pour l'instant jusqu'au 3 mars 2023. Les dessertes seront ensuite suspendues, sauf pour les vols affrétés avec les principales compagnies de croisière. Et il est peu probable, selon la direction d'Air Belgium, que les vols vers Pointe-à-Pitre et Fort-de-France reprennent avant fin octobre 2023. 3 autres lignes caribéennes sont elles aussi suspendues, elles dès la mi-janvier. Il s'agit de Punta Cana en République dominicaine, de Curaçao et de Bonaire, deux îles néerlandophones. La compagnie aérienne belge était revenue en janvier dernier aux Antilles après la parenthèse de la pandémie de Covid-19. Cette fois, l'interruption des vols est justifiée par la flambée du prix de l'énergie et par des problèmes financiers. Selon la chaîne d'info belge LN24, Air Belgium rechercherait 10 millions d'euros avant la fin de l'année pour éviter la faillite.
Direction maintenant la métropole, mais oui, et plus précisément le village de Boutigny en Seine-et-Marne. Alors pourquoi ce village ? Eh bien parce que les habitants veulent ériger un monument à la mémoire de 4 soldats martiniquais tombés au combat pendant la Seconde Guerre mondiale, une initiative soutenue en Martinique par l'historienne Sabine Andrivon Milton. Écoutez-la au micro de Claude Gracien.
Ce village, chaque année, hein, ils rendent hommage à ces Martiniquais en faisant donc des cérémonies. Et cette année, ils ont lancé un projet qui consiste à ériger une stèle en hommage à ces 4 soldats. Moi, je trouve ça extraordinaire que de là où ils sont, ils pensent encore à ces soldats martiniquais. Ils ont lancé toute une série donc, de recherches de financement. De mon côté, donc, je suis le relais en Martinique auprès de la population martiniquaise pour les informer, leur dire que voilà, il y a un petit village en France, dans l'Hexagone, qui pense à nos soldats martiniquais, qui veut leur rendre hommage. Et nous devons aussi participer à cela. Donc toutes les instances ont été sollicitées, hein, donc, et notamment les mairies où sont originaires ces 4 soldats. Et d'ailleurs, on est très content de savoir que la ville de Trinité a déjà répondu favorablement. Mais ce que je veux surtout qu'on retienne, c'est qu'il faut aussi que les Martiniquais s'investissent aussi dans ce projet qui nous concerne. C'est un hommage pour nous. Et nous avons mis en place alors une cagnotte participative, l'ECHI, la stèle en hommage aux soldats martiniquais de Boutigny, où tout un chacun pourra mettre ce qu'il veut.
Voilà une initiative dont il fallait évidemment parler en ce 11 novembre. Bon après-midi, bon week-end de Marion, à lundi.
À lundi, Benoît Ferrand. C'est ainsi que s'achève ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Lorraine Nemoza qui était à la réalisation aujourd'hui. Restez avec nous sur RFI. L'information reprend dans une trentaine de secondes.